de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour une épopée au ras du sol aujourd'hui, sur les traces des fourmis, et plus particulièrement des fourrageuses, les plus aventurières d'entre elles, celles qui sortent de la fourmilière, bravant tous les dangers à la recherche de nourriture. De vraies héroïnes, dotées d'une force physique herculéenne, d'une mémoire incroyable, d'un sens de l'orientation, de la structuration sociale, d'un don pour la stratégie. Ces fourmis aventureuses se révèlent tour à tour haltérophiles, nageuses, guerrières, infirmières, voire même kamikazes. Mais d'où viennent leurs super pouvoirs? Piste de réponse et de recherche stupéfiante de nos invités, deux des plus éminents myrmécologues, c'est-à-dire spécialistes des fourmis. Audrey Dussutour, qui est avec nous en direct et qui est aussi la spécialiste du blob, cet organisme multicellulaire que Thomas Pesquet a même embarqué dans l'espace. Nous sommes également en compagnie d'Antoine Wistracht en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à Toulouse, spécialiste du cerveau des fourmis et du comportement des insectes. Tous deux viennent de publier un véritable roman d'aventure scientifique, L'Odyssée des fourmis, aux éditions Grasset. L'aventure ne fait que commencer autour de la question « Pourquoi les fourmis sont des super-héroïnes ?» Bienvenue dans notre fourmilière.
Oh, regarde celle-là, elle transporte une feuille.
Oh.
Non mais t'as vu ça, comment elle est forte?
On pense toujours que toutes les fourmis piquent ou que ça fait mal, etc. En fait, bon bien sûr ça peut piquer hein, si on les écrase ou si on les... Voilà. Mais sinon, elles sont trop occupées pour attaquer. Hein.
Tu la vois la grosse là?
Oui.
Elle a devant...
Je vois pas,
comme
moi.
Des petites pinces.
Regardez le petit tunnel.
Ce sont les larves, rappelle, c'est-à-dire les œufs qui grandissent. Qui est-ce qui pond?
C'est la reine.
Voilà, il n'y a que la reine. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre fourmi? Est-ce qu'il y a des ouvrières?
Oui.
Qu'est-ce qu'elles font?
Elles construisent.
Ah, elles construisent.
Moi, je pense pas que je pourrais faire tout ça, porter du foin à mon poids et tout. Et là, ça, vraiment, c'est incroyable.
Incroyable, hallucinant propos recueillis dans l'exposition 1000 milliards de fourmis il y a quelques années au Palais de la Découverte par Alice Milo. Bah oui, incroyable, hallucinant, les mots ne sont pas trop forts face au super pouvoir des fourmis. Bonjour Audrey Dussutour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager l'Odyssée. C'est une vraie Odyssée des fourmis parue aux éditions Grasset. Une Odyssée coécrite avec vous, Antoine Wistracht. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à Toulouse. Alors, vous êtes tous les deux, Audrey et Antoine, myrmécologues, spécialistes des fourmis. Audrey Dussutour, je le disais en introduction, vous êtes aussi internationalement reconnue comme la spécialiste des blobs, ces étranges et fascinants organismes unicellulaires que vous avez réussi à envoyer dans l'espace avec Thomas Pesquet. On y reviendra peut-être parce que vous invitez chacun d'entre nous à élever son petit blob à la maison. Ça peut donner envie. Mais, pardon, aujourd'hui, c'est sur votre première spécialité, hein, vos recherches sur les fourmis, et notamment sur l'art et la manière qu'elles ont de toujours retrouver leur chemin. Vous aviez mis cela en évidence. Et dans cette Odyssée des fourmis, vous avez choisi de mettre l'accent sur les fourmis qui sortent chercher de la nourriture. En bravant tous les dangers, on les appelle les fourrageuses. Ce sont quoi? Des super-héroïnes qui vivent chaque jour une véritable Odyssée au péril de leur vie. Hein, c'est ça, Audrey?
Exactement, les récolteuses, elles représentent à peu près 10% de la colonie, donc c'est assez peu, et elles doivent nourrir les 90% restants qui sont restés au nid, qui attendent de la nourriture. Et donc ces fourmis qui sont dans la plupart des espèces les plus âgées de la colonie. Donc
Plus âgées, ce sont elles qui sortent.
Hein. Exactement, en fait la colonie ne sacrifie pas ces jeunes ouvrières, mais ces plus âgées, parce que finalement récolter la nourriture, c'est la tâche la plus dangereuse qu'il peut y avoir dans la vie d'une fourmi, puisqu'elle n'est plus à l'abri de sa fourmilière. Donc elle va sortir dans un monde extérieur qui est à notre échelle Jurassic Park. Parce qu'il y a des prédateurs, il y a des compétiteurs, il y a aussi des conditions environnementales qui peuvent être difficiles, la sécheresse, une inondation, etc. Donc en fait, elles vont braver 1000 dangers. Une fois qu'elles ont trouvé la nourriture, elles la ramènent au nid et là, elles doivent repartir automatiquement et elles vont faire ça jusqu'à leur mort.
Et on choisit effectivement les plus âgés, les plus expérimentés aussi peut-être.
Exactement, en fait, dans la...
Enfin, on choisit. Voilà.
C'est la division du travail, en fait, chez les fourmis, il y a deux types, ça dépend des espèces. Il y a des espèces, 20% des espèces, qui vont avoir des fourmis extrêmement spécialisées, donc des soldats, des récolteuses, des fourmis qui vont s'occuper, par exemple, des larves. Et chez 80% des autres espèces, c'est vraiment une différenciation qui se fait avec l'âge. Au tout début, on va s'occuper des jeunes, on va ne rien faire aussi dans la colonie.
Il y a des fourmis qui ne font rien. Hein.
Voilà, il y a des fourmis qui vont juste rester là. Il y a 10% à peu près des fourmis qui ne font rien. Elles sont là, c'est un buffer en fait pour la colonie, pour pouvoir réagir aux catastrophes qui pourraient arriver.
Enfin, en attendant, elles font rien. Quoi.
Elles ont logis, elles sont nourries. Et après, vous allez donc avoir des fourmis qui vont par exemple se lancer dans la construction du nid. Petit à petit, elles vont se rapprocher de la sortie et elles vont donc sortir et devenir des récolteuses à la fin de leur vie.
À la fin de leur vie, elles deviennent de super héroïnes, de super récolteuses. Antoine Vistrache, vous êtes éthologue, spécialiste du comportement des insectes et du cerveau des fourmis en particulier. Alors on parle beaucoup évidemment de l'intelligence collective des fourmis, de cette organisation sociale, mais les fourmis, elles ont aussi, enfin chacune d'entre elles, un cerveau, individuellement et pas seulement collectivement.
Oui, exactement. On a tendance à voir les fourmis comme des petits robots, c'est-à-dire que chaque individu est exactement le même qu'un autre. Alors en fait, il suffit de se pencher un petit peu. Par exemple, dans nos expériences, on peut leur mettre des petits points de peinture pour les reconnaître individuellement. Mmh. Et là, ça saute aux yeux. Effectivement, il y a des personnalités. Par exemple, il y a des individus qui sont plus timides, plus soumis, d'autres dominants, agressifs, certaines qui apprennent très vite, d'autres qui apprennent plus lentement. Et ça, c'est cette diversité au sein d'une colonie même. Ces personnalités, ça vient du fait qu'elles ont, comme nous, un cerveau. Et ce cerveau, il est plastique, c'est-à-dire qu'il se transforme au fur et à mesure des expériences personnelles de la fourmi. Et,
ça veut dire qu'elles apprennent
Exactement. Ouais. Alors maintenant, il y a de plus en plus d'études qui vont regarder en détail dans leur cerveau, pas seulement le comportement, mais aussi la connectivité de tous ces neurones. Mm-hmm. Et on se rend compte qu'en fait, un cerveau un peu comme le nôtre, même s'il est beaucoup plus petit, il est constitué d'une diversité de régions, mais il y a une trentaine, et chaque région a des neurones qui sont très plastiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent former des nouvelles connexions et donc apprendre avec l'expérience. Nous, on travaille spécifiquement sur une aire cérébrale et l'apprentissage se fait en temps réel à la seconde près. Donc, on voit comment la fourmi absorbe son environnement extérieur à l'intérieur de son petit cerveau. Ouais.
À l'intérieur de son petit cerveau, comment étudier le cerveau d'une fourmi? Ça aussi, ça paraît fantastique. Et donc, on peut se dire, je ne sais pas si c'est à Antoine ou à Audrey que je pose la question, on peut se dire que les plus âgés, ce sont les plus expérimentés, que ce sont des fourmis qui sont peut-être qui ont l'expérience d'une vie de fourmi et qui sont peut-être plus aptes à faire face à certains dangers.
Clairement, elles ont appris une certaine flexibilité au cours de leur vie, mais il faut savoir qu'une fourmi, quand elle sort la première fois, elle n'a rien vu de son monde. Elle a vécu dans le noir toute sa vie. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Une fourmi, au tout départ de sa vie, elle naît dans une fourmilière, donc elle est dans le noir le plus total. Et quand elle va sortir de son nid, ben déjà, elle est dans un monde qui est baigné de lumière. Et du coup, ça va forcément développer des sens qu'elle n'avait peut-être pas travaillé avant dans la colonie, puisque on dit toujours les fourmis sont très olfactives, mais Antoine en parlera bien mieux que moi. Les fourmis sont extrêmement visuelles aussi. Et donc, quand elles plongent dans ce milieu, dans ce nouveau monde, la première fois, ben les organes visuels vont forcément se développer.
Antoine, je veux bien vous entendre là-dessus parce que ça paraît complètement fou. Donc d'un seul coup, elle se retrouve dans un monde qui n'a rien à voir avec le premier. Et il faut qu'elle y aille et qu'elle y aille et qu'elle y aille vite. C'est vraiment des héroïnes.
Antoine. Oui, alors c'est vraiment bien fait parce que même, alors comme l'a dit Audrey, avec l'âge, elles vont commencer à se développer. Leur cerveau va se préparer pour cette dernière transition. Mais c'est effectivement au moment où elles mettent la tête à l'extérieur, les yeux sont baignés de lumière. Et là, généralement, la fourmi ne sort pas plus. Elle met la tête à l'extérieur, elle rentre, elle va faire ça pendant 2-3 jours. Parce que l'exposition à la lumière va déclencher un grand chamboulement dans certaines aires de son cerveau, et notamment les aires qui permettent d'apprendre l'environnement visuel et de s'orienter. Et donc, on voit des volumes qui vont faire d'un coup 30 à 40% plus volumineux dans leur cerveau avant de sortir à l'extérieur du nid. Donc elle prépare vraiment comme une dernière métamorphose cette tâche de fourragement. Ouais.
Jusqu'où nous entraîneront ces fourmis, ces super-héroïnes, enfin celles qui sortent. Et d'ailleurs, comment communiquent-elles entre elles? Avant de vous laisser la réponse, je vous propose les pistes de réponse d'un myrmécologue, Christian Peters, auquel vous dédicacez d'ailleurs tous les deux cet ouvrage, l'Odyssée des fourmis. Christian Peters est disparu trop tôt, en 2020. Il était notre invité ici même dans ce studio en 2013. Je propose de l'écouter, partager la vie de famille d'une fourmilière qui a passé tant de temps, j'ai envie de dire à quatre pattes, à les élever dans son laboratoire au CNRS.
Disons qu'une colonie de fourmis, c'est une famille. Donc il y a la reine qui est la mère de toutes les ouvrières. Et les ouvrières restent stériles, donc elles n'ont pas leurs propres enfants, mais elles travaillent pour aider la reine à élever ses enfants. Et donc il y a vraiment une convergence d'intérêts entre la reine et les ouvrières. Il y a des conflits, bien sûr, mais les fourmis savent les gérer. Donc elles vivent toujours en société.
Et comment ça marche? Comment elles communiquent entre elles, les fourmis?
Elles emploient un langage chimique, des mots chimiques qu'on appelle des phéromones, qui sont produits dans des glandes spécialisées. Et chaque mot a une signification. Donc il y a une phéromone d'alarme, une phéromone pour pister vers la nourriture, une phéromone pour reconnaître le mâle étranger. Avec les antennes, elle capte cette molécule et ceci va déclencher un comportement bien, bien précis. Et voilà pourquoi elles peuvent travailler ensemble, elles peuvent synchroniser leurs activités et donc s'organiser efficacement.
Quelle organisation chez les fourmis! Alors, on l'a dit, quand elles sortent, les fourrageuses, elles développent les yeux, enfin ce sens-là. Mais d'abord, elles fonctionnent à l'odeur, Audrey Dussutour. Enfin,
oui,
à l'odeur,
oui.
Aux phéromones.
Oui, exactement. Les fourmis vivent, et certaines, elles vivent tellement dans un monde olfactif qu'elles ont carrément perdu les yeux au cours de l'évolution.
Ah, certaines fourmis n'ont pas d'yeux.
Oui, c'est le cas, par exemple, des fourmis légionnaires africaines, les Dorylus. Elles ont carrément perdu l'organe visuel, les yeux, et elles se dirigent qu'à l'odeur. Et l'odeur, c'est utilisé pour percevoir les phéromones, comme le disait très bien Christian, mais aussi pour se reconnaître comme membre de la colonie.
Entre elles ou entre membres de la même colonie?
Entre membres de la même colonie, en fait, les fourmis, elles ont sur elles une signature chimique qui vient à la fois de la génétique, mais aussi de l'environnement. Et donc, elles ont une odeur particulière.
La même famille de fourmis a la même odeur.
Donc, au sein de la même colonie, elles vont avoir une odeur similaire. Et ce qui était très important dans ce qu'a dit Christian Peters, c'est que souvent, l'anthropomorphisme fait qu'on voit la société de fourmis comme une société. Et en réalité, je trouve que le mot important dans ce qu'a dit Christian Peters, c'est famille.
En réalité,
une société de fourmis, un nid de fourmis, c'est une famille. C'est une mère, la reine, qui va enfanter donc toutes ses ouvrières. Et donc, en effet, elles ont un but commun et donc elles vont avoir une odeur commune. Et elles vont en effet travailler dans le but de faire pulluler en fait cette grande colonie de fourmis. Et souvent, quand on compare avec une société humaine, ouais, nous, on n'a pas des buts qui sont communs.
Et oui,
forcément, quand
sûr.
On se déplace, nous, sur le chemin, par exemple, il y en a qui vont au travail, il y en a qui vont chercher leurs enfants. Les fourmis, non, quand elles partent récolter de la nourriture, elles partent toutes récolter de la nourriture pour la famille.
C'est une famille qui va dans un but commun. Je reste avec vous, Audrey, parce que c'est vous qui aviez démontré aussi, aujourd'hui, il y a des algorithmes fourmis. On sait que les fourmis sont les meilleures pour trouver le chemin le plus rapide, pour retrouver aussi leur fourmilière, c'est là pour le coup, ce sont des super pouvoirs. Hein.
Oui, exactement. La fourmi, c'est comme le petit poucet. En fait, sur énormément d'espèces, utilisent ce qu'on appelle des phéromones de piste, c'est-à-dire quand elles se déplacent dans leur environnement et qu'elles trouvent de la nourriture, elles vont revenir au nid en laissant une trace chimique sur le sol. Et les autres fourmis, cette trace chimique, ça va non seulement les stimuler à sortir, mais aussi ça va les aider à s'orienter jusqu'à la source de nourriture. Et en revenant, elles vont renforcer cette piste. Et petit à petit, entre le nid et la nourriture, on va avoir un gros trafic de fourmis, vraiment des allers-retours, et ça marche bien mieux que notre trafic automobile.
Ah, clairement, oui, il n'y a pas d'embouteillage.
Pas d'embouteillage chez les fourmis, parce qu'elles savent très bien s'organiser, et aussi parce que justement, elles ont ce but commun.
On va rester encore sur l'odorat, et après, je ferai réagir évidemment Antoine Vistrache là-dessus, parce que l'odorat leur sert aussi, Audrey, vous le racontez dans un chapitre, l'Odyssée des fourmis, à sentir leur mort.
Oui,
et à savoir, enfin voilà, en c'est fait, pas à s'occuper de leur mort, mais à savoir
qu'ils sont morts. En réalité, quand une fourmi meurt, elle a une odeur particulière qui est souvent liée à l'acide oléique et qui fait que ça sent la mort. Donc c'est Edward Wilson qui en parle le mieux de cette odeur puisqu'il dit que ça sent le gymnase mélangé avec la vieille chaussette.
On voit le genre.
Donc voilà, ça sent mauvais. Et la fourmi, ça va lui permettre de différencier entre une fourmi finalement morte et une fourmi vivante. Et donc l'expérience qu'a fait Edward Wilson est assez rigolote. Il a pris une fourmi qui était bel et bien vivante et il l'a enduit de cette odeur de mort. Et ce qu'ont fait les fourmis, c'est de prendre cette fourmi qui est en train de gambader, hein, de la mettre dans le cimetière. Puisque les fourmis, en fait, les morts, elles les agrègent dans un coin de la colonie. Donc elle a pris et elle remettait donc la fourmi sur le cimetière. Donc la fourmi était bel et bien vivante, donc elle revient à la colonie en gambadant. Et les autres fourmis continuaient à la mettre sur le cimetière jusqu'à ce qu'elle perde carrément l'odeur de mort.
Et donc c'était bien, c'est bien par l'odeur qu'elles arrivent à se reconnaître. Alors Antoine Vistra, j'ai envie de vous réagir là-dessus. Parce que vous, alors ce qu'on n'a pas dit aussi, hein, c'est qu'on dit les fourmis comme ça. Il y a combien d'espèces, un nombre insensé, d'espèces de fourmis très... 13 000
connues, 25 000 estimées.
Voilà, 25 000 espèces de fourmis. Donc, de quelles fourmis parle-t-on ? Et vous, Antoine Vistrache, qui travaillez, je le rappelle, sur le cerveau des fourmis, hein, et vous avez remarqué à quel point il est plastique, le cerveau d'une fourmi, vous travaillez sur certaines fourmis, évidemment.
Oui, voilà. Ouais. Donc, on ne peut pas travailler sur les 13 000, ça c'est sûr.
Et, 13 000 espèces.
Les règles générales qu'on donne... Ouais. Les règles générales qu'on donne sur les fourmis sont généralement vraies pour peut-être 80%, mais pas pour 20% d'autres fourmis. Ceci dit, dans les fourmis qu'on étudie, elles utilisent aussi l'odeur, bien qu'elles soient spécialistes de la vision. Et pas seulement, d'ailleurs, elles ne se limitent pas à l'odeur et à la vision. Donc, je pensais parler d'une expérience qui avait été assez intéressante. Ils ont montré des petites fourmis du désert qui sortent en solitaire, donc livrées à elles-mêmes pour trouver la nourriture.
Toutes seules, en solitaire.
Et dans le désert, il y a voilà, enfin, elles vivent en colonie dans le désert, mais quand elles sortent à l'extérieur, elles sont livrées à elles-mêmes. Mm-hmm. Elles ne se fient pas à des pistes chimiques du tout. Alors, elles, ce qui est incroyable, c'est que dans leur désert, il n'y a pratiquement rien à trouver. Et pourtant, elles sont exceptionnellement fortes pour trouver. Alors, l'expérience montrait qu'un petit criquet mort dans un rayon à une distance de 100 mètres du nid, donc ce qui fait un rayon de 100 mètres, ça fait genre 3 fois le Stade de France. Mm-hmm. Il fallait en moyenne 4 minutes à une fourmi pour le trouver, ce qui est exceptionnellement rapide. Et les chercheurs ont montré qu'en fait, elles utilisaient une stratégie qui était de marcher perpendiculairement au vent, parce qu'elles détectent aussi le vent avec les antennes, le sens du vent. En marchant perpendiculairement au vent, on augmente les chances de traverser une effluve qui, elle, va être emportée par le vent.
Ah.
Et une fois que l'effluve a été traversée, là, la fourmi remonte le vent jusqu'à la source. Et tout en faisant ça, elle apprend sa route visuellement pour pouvoir y retourner le prochain coup d'une manière directe. Donc on voit comment la vision, l'olfaction et le sens du vent ici interagissent pour faire qu'elles réussissent à leur tâche de fourragement.
Une chose que je n'ai pas tout à fait compris, vous dites visuellement, elle repère le terrain pour pouvoir y revenir et ça s'inscrit dans son cerveau. On parlait de mémoire, c'est ça, Antoine Vistrache.
Exactement. Donc la première fois qu'elle le fait, elle ne le connaît pas encore. Donc là, elle utilise le vent et l'odeur, du coup, pour retrouver sa proie. Mais tout en faisant ça, une fois qu'elle a trouvé sa proie, elle va avoir mémorisé la route qu'elle a fait et qui l'a amenée à cette proie. Du coup, au trajet suivant, elle va pouvoir y aller beaucoup plus rapidement en utilisant la vision.
Et comment ça mémorise une fourmi? Comment ça mémorise un trajet? Vous avez une idée, Antoine Vistrache?
Alors, on a une bonne idée comment ça marche dans le cerveau, mais une question qu'on s'était posée récemment, c'est quand est-ce qu'elle mémorise? On s'était dit, il doit y avoir des moments clés où elle mémorise ce point-là parce qu'il y a eu de la nourriture. Et nos expériences toutes récentes là, ont montré qu'en fait, elle mémorise tout le temps. Donc, un petit peu comme nous. Ce n'est pas comme s'il y avait des moments où le cerveau apprenait, des moments où le cerveau apprenait pas. En fait, elle mémorise tout leur trajet. Et par contre, elles vont les associer avec « Oh, ce trajet-là n'a amené à rien, celui-ci est un... »
Ah, on a un petit problème de son. On va vous retrouver, Antoine Vistrache, en attendant autour de la question jusqu'où nous entraînera cette incroyable mémoire des fourmis, on l'a dit collective, mais aussi individuelle. Nouvelle question pour tous les deux, pendant qu'on récupère Antoine Vistrache en duplex depuis Toulouse. Nouvelle question soulevée par un éthologue que vous connaissez d'ailleurs, Ludovic Dickel, professeur à l'université de Caen, qui travaille, lui, étudie la mémoire des sèches et des calmars, carrément. Oui, eux aussi, ils ont une mémoire. Ludovic Dickel était récemment notre invité autour de son ouvrage « Dans la peau d'un poulpe » et nous a laissé une question pour vous, on l'écoute.
On dit que les fourmis sont très altruistes envers leurs proches et beaucoup moins altruistes envers les étrangers. Est-ce que c'est vrai pour toutes les espèces ?
Qui est-ce qui veut, qui peut répondre à cette question? Audrey, peut-être?
Alors, oui et non. Les fourmis sont altruistes avec les membres de leur colonie, la plupart du temps, et avec une colonie voisine, elles sont territoriales et elles peuvent justement ne pas trop coopérer.
Pourquoi vous parliez de famille hein, tout à l'heure?
Voilà,
c'est vraiment
c'est
des familles différentes.
Famille, voilà. Mais il existe des espèces, comme la fourmi d'Argentine, et on y reviendra, qui vont tout à fait tolérer leurs voisines et qui vont même coopérer, et ce qui fait leur succès. Donc on va avoir parfois un altruisme vraiment lié autour du noyau familial, mais parfois cet altruisme peut vraiment s'étendre à d'autres colonies autour. Il y a par exemple aussi ce qu'on appelle des fourmis qui fonctionnent comme des polydomes, on dit. Donc, c'est des multiples colonies qui ont un lien. C'est souvent leurs filles qui sont parties s'installer plus loin.
La fille de la reine ou voilà. La fille de la reine
qui s'installe un petit peu plus loin, qui va fonder sa colonie. Et elle garde un lien. Et elle garde un lien. Et donc, on a des forêts comme ça, par exemple en Suisse, qui c'est des hectares et des hectares de fourmis des bois qui coopèrent toutes entre elles. Et pourtant, ce sont des colonies, des familles différentes.
Antoine Vistrage, sur ces questions d'altruisme, de coopération, elles ont quand même aussi beaucoup d'ennemis. Les fourmis, quand elles sortent, et surtout celles qui sortent pour amener de la nourriture, il y a des prédateurs. Et puis parfois, elles sont elles-mêmes aussi prédatrices. Enfin, il y a tous les comportements possibles, finalement, chez les fourmis.
Oui. Et puis, c'est ça qui est bien. On peut toujours trouver une réponse différente de celle d'avant pour une même question.
Ah, oui.
En ce qui concerne l'altruiste, il y a d'autres espèces, donc pas celles qui collaborent même avec les autres colonies, mais à l'inverse, il y a des espèces où au sein de la colonie, c'est pas forcément utopique. Il va y avoir des conflits parce que les ouvrières parfois peuvent aussi pondre des mâles. Alors pourquoi ce serait que la reine? Et il arrive y avoir dans certaines espèces où des prétendantes vont jusqu'à tuer la reine pour prendre leur position de pondeuse. Donc l'altruisme a ses limites chez certaines espèces aussi.
Et la hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie. Non. Enfin, elle peut être bouleversée, la hiérarchie.
Ah ouais, d'ailleurs, c'est des histoires de hiérarchie tout à fait typiquement là dans l'espèce que j'ai en tête, qui est la Dinoponera. Mm-hmm. Celle qui risque de renverser la mère pondeuse, ça va typiquement être la plus dominante qui n'est pas concrètement la reine. Donc c'est ce qu'on appelle la bêta, ce n'est pas la alpha mais la bêta. Donc il y a bien une hiérarchie linéaire bien mise en place chez ces espèces.
Ouais. Et vous vouliez nous raconter un autre, nous partager un autre exemple de fourmis, je ne sais pas, altruiste ou esclavagiste peut-être, ça existe aussi.
Exactement, un détournement de l'altruisme typique, ce sont ces fourmis esclavagistes qui vont faire des raids chez d'autres espèces de fourmis. Donc les fourrageuses vont dans le nid d'autres fourmis, récoltent des petites larves donc d'une autre espèce et les ramènent chez elles. Quand ces petites larves émergent, comme on l'a dit avant, elles sont plastiques. Donc elles, ce qu'elles vont faire, c'est apprendre leur environnement comme si c'était leur propre famille. Et du coup, elles vont se mettre à aider l'espèce qui les parasite, en fait. Et donc là, elles sont altruistes envers une autre espèce bien malgré elles.
Et c'est ça, elles deviennent esclavagistes. Autour de la question, jusqu'où nous entraîneront les fourmis super-héroïnes pour le meilleur comme pour le pire? Elles ont vraiment de quoi nous fasciner, c'est le cas depuis toujours, d'où cette reprise de la célèbre fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi, mais en version R&B par le collectif We Are the World Citizen. C'est Soane et Angelina, jeunes gagnants de The Voice Kids 2019, La cigale et la fourmi revisitée, et en plus ça marche.
La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Dansez maintenant.
La cigale et la fourmi version R&B avec Soan et le très jeune collectif We Are World Citizen sur RFI. De circonstances évidemment, même si Audrey, je ne sais pas si la cigale et la fourmi... Ça concerne plus les humains que les vraies cigales et les vraies fourmis.
Oui, normalement, la morale était plutôt dédiée à l'humain hein, quand La Fontaine écrivait ses fables. Mais quand même, ça a donné cette image de la fourmi travailleuse.
C'est ça. Hein.
C'est pas toujours vrai. Donc, on l'a vu tout à l'heure, 10% des fourmis ne font rien à l'intérieur du nid.
Autour de la question de ces super-héroïnes qui parfois ne font rien, qui parfois font beaucoup, qui peuvent être haltérophiles, médecins, guerrières, éleveuses ou même esclavagistes. Alors, on a parlé de leur communication chimique, olfactive, mais aussi de leurs yeux. Jusqu'où peuvent-elles se suivre, s'entendre, s'entraider? C'est tout le sens de la question que vous pose la chercheuse en écologie de l'évolution, Tatiana Giraud, titulaire cette année au Collège de France de la chaire Biodiversité et Écosystème. On l'écoute.
Sur les colonies de fourmis envahissantes, de fourmis d'Argentine qui sont en train de coloniser le sud de l'Europe, surtout le long des côtes méditerranéennes, on s'était aperçu qu'il y avait par exemple une super colonie qui faisait 6000 km de long. Et la question de son évolution et de son maintien était vraiment une énigme évolutive, parce que l'altruisme ne peut se maintenir que s'il est uniquement entre apparentés, entre
fourmis
individus de la même famille, ce qui n'était pas le cas au sud de l'Europe.
Donc, or, ces fourmis cohabitaient
Coopéraient sur 6000 km entre des nids qui n'étaient pas du tout de la même famille, sur tout le long de la côte méditerranéenne. Donc c'est très étonnant, et donc je voulais savoir si on avait enfin compris ce qui s'était passé. Comment ça avait pu évoluer, comment ça peut se maintenir.
Audrey Dussutour, comment ça peut se maintenir, des colonies de fourmis, et par quelle communication sur plus de 6000 km?
Oui, c'est la plus grande colonie, on appelle ça une super colonie, c'est la plus grosse colonie au monde en fait. Et elle part donc des côtes méditerranéennes, donc ça fait tout le Portugal, l'Espagne, la Méditerranée et la botte italienne. Donc c'est vraiment énorme. Et en réalité, on oublie souvent, mais en Europe, il y a 3 super colonies comme ça de fourmis d'Argentine. Il y a la grande qui fait 6000 km, il y en a une toute petite en Catalogne. Et elle se tape dessus avec celle qui fait 6000 km et une petite en Corse. En réalité, parce que ce sont différentes
familles différentes. Fourmis d'Argentine.
Non, fourmis d'Argentine. En réalité, quand les fourmis d'Argentine sont arrivées, donc il y a une centaine d'années, c'est Laurent Keller qui a peut-être résolu le mystère. Au départ, on pensait que ça avait créé un étranglement génétique et que finalement, la diversité génétique entre les fourmis est très, très faible. C'était vraiment l'idée que finalement, il y avait peu de reines et peu de mâles qui étaient arrivés et que finalement, toutes les fourmis étaient identiques et c'est pour ça qu'elles coopéraient. Et en réalité, Laurent Keller a montré, c'était en 2010, que finalement c'est plutôt un nettoyage de gènes qui s'est passé. Pour lui, son hypothèse, c'est que quand ces fourmis sont arrivées, comme elles étaient très très denses en densité dans un tout petit espace, l'intérêt était plutôt de coopérer que de se faire la guerre toute la journée. Et donc les gènes qui sont impliqués dans la reconnaissance individuelle, ceux qui finalement généraient en fait cette forme de compétition n'auraient pas été sélectionnés, et ceux qui par contre généraient un petit peu de la tolérance en réalité auraient été sélectionnés. Et que c'est en réalité, oui, il a montré ensuite qu'il y avait une énorme diversité génétique, et c'était vraiment ces gènes qui codent pour la reconnaissance des fourmis qui avaient finalement disparu petit à petit. Et c'est pour ça que cette colonie peut coopérer, parce
sur
que finalement c'est juste que
kilomètres.
Les fourmis ne se reconnaissent pas comme étrangères l'une l'autre.
Et qu'elles pensent, enfin, dans leur petit cerveau de fourmis que vous étudiez, Antoine Vistrache, elles pensent qu'elles font partie de la même famille. Vous parlez aussi, Antoine Vistrache, quand il s'agit de ces colonies, voire super colonies de fourmis, vous parlez d'un chaos organisé, c'est ça un peu?
Ouais, c'est un bon exemple avec la colonie de 6000 km. Je ne pense pas qu'un individu de cette colonie soit au courant qu'il appartient à une colonie aussi grande. Il va juste interagir avec ses voisins locaux, ceux qu'il aura rencontrés dans sa vie. Il n'a pas besoin d'avoir la vue globale pour que la colonie soit si efficace. Il a juste besoin de suivre des petites règles qui font que ça fonctionne d'un point de vue global. Donc à ce sens-là, une colonie de 6000 km ou de 2 km peut suivre simplement les mêmes règles. Il suffit que ce soit des règles qui vont bien fonctionner.
Et elles sont très douées pour faire des règles qui vont bien fonctionner. Un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux, il est à Bukavu en RDC, et il vous demande quelle est l'importance, quel est le rôle des fourmis dans l'environnement. Vaste sujet, qui peut répondre?
Alors, je peux entamer et Antoine terminera. Alors, les fourmis, par exemple, elles sont impliquées dans la pollinisation. On n'y pense pas.
Et non, on pense aux
abeilles. On pense aux abeilles, mais en réalité, les fourmis...
Il y a des fourmis qui volent aussi. Hein,
voilà. Et puis, elles font de la pollinisation, puisqu'elles se déplacent beaucoup sur les fleurs, etc. Elles font de la dispersion de graines. Par exemple, il y a une espèce, Aphaenogaster, qui, par exemple, en Amérique du Nord, on dit que si on enlevait cette espèce, on perdrait des centaines d'espèces d'arbustes, puisque c'est elles qui sont responsables de la dispersion des graines de ces arbustes. Elles vont aussi être responsables de l'aération des sols.
Eh oui.
Et donc oui, elles ont une importance, mais comme tout organisme en réalité dans l'écosystème, puisqu'elles sont aussi la proie d'un organisme et le prédateur d'un autre organisme. Donc elles font partie d'un réseau d'espèces et elles sont fondamentales.
Antoine Vistrage, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ?
Oui, bah la réponse raccourcie, c'est penser bien que le poids cumulé des fourmis, c'est plus que le poids cumulé des hommes. Donc on peut être à peu près sûr que si on enlève tant de masse vivante d'un coup, il va y avoir forcément des changements dans l'écosystème.
C'est clair.
Effectivement, les vraies réponses, ce sont que des exemples. Chaque espèce montre un exemple à quel point elle est importante. Il y a beaucoup de relations entre fourmis et plantes très spécifiques. Par exemple, il y a une petite fourmi, une petite Camponotus, qui vit avec une plante carnivore. Elles sont spécialisées, elles vivent ensemble. Si vous enlevez la fourmi, la plante carnivore aura des problèmes.
Et la plante carnivore ne mange pas la fourmi.
Non, c'est d'ailleurs, pour cette histoire, c'est assez beau. C'est ces plantes carnivores, vous savez, qui font ces belles cruches, ces pichets remplis de liquide et aux bords glissants, et qui, généralement, attirent avec un petit peu de sucre sur les bords d'autres insectes qui glissent et qui tombent dans les cruches. Et cette plante carnivore, en fait, a baissé un petit peu son taux d'acidité, ce qui permet et offre en plus de ça le logis à nos fourmis. Donc les fourmis vivent dans la plante carnivore, et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles sont capables de plonger et de nager dans le liquide de cette plante. Alors on se disait, mais c'est mauvais pour la plante, puisqu'elle elle dérobe les proies de la plante, en fait. Mais ce qu'elles font, c'est qu'elles ne les dérobent pas, c'est que quand il y a des grosses proies, généralement, sans fourmis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le liquide tourne et ça finit par pourrir. Or là, avec les fourmis qui nagent, elles vont récupérer la proie, la sortir du liquide, la manger sur place, et finalement, c'est les déjections des fourmis qui vont tomber dans le liquide et qui sont faciles à digérer pour la plante.
Ah, mais c'est extraordinaire. Et les fourmis, alors elles sont aussi... Là, vous parlez d'une coévolution, d'une symbiose, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Vous parlez aussi de ces fourmis...
Les deux sont corrects.
Les deux sont corrects, merci. vous parlez aussi de fourmis qui sont... il y a multiples génies des fourmis, mais qui sont capables d'élever des espèces de champignons, si je ne m'abuse.
Oui, alors les fourmis sont spécialisées dans l'agriculture de champignons.
C'est les premières agricultrices. Hein,
c'est ça, exactement. C'est ça. 50 millions d'années, l'émergence de l'agriculture chez les fourmis. Et elles élèvent aussi des pucerons. Alors c'est ce qui nous intéresse beaucoup, parce que les gens voient ça sur leur rosier, ils voient beaucoup de pucerons et ils voient toujours des petites fourmis autour. Et en fait, c'est pas une très bonne nouvelle pour la personne avec ses rosiers, parce qu'en fait, les fourmis, elles s'occupent des pucerons comme nous, on s'occupe finalement de nos troupeaux de vaches. C'est-à-dire qu'elles vont sélectionner les meilleurs pucerons. En réalité, ce qu'elle fait, la fourmi, c'est qu'elle se nourrit du miella des pucerons. Alors, le miella, c'est les excréments des pucerons. Ouais. En réalité, le puceron, il mange la sève des arbres. La sève est extrêmement sucrée, donc lui, il retire les protéines et ses excréments sont du coup très riches en sucre. La fourmi, elle prélève ce miella et donc elle va préférer prendre des pucerons qui produisent beaucoup de miella que d'autres pucerons. Donc, elles vont sélectionner. Elles vont même jusqu'à couper les ailes des pucerons pour qu'ils ne s'envolent pas sur un autre rosier pour garder leur troupeau. Et elles vont aussi jusqu'à garder les pucerons au nid pendant l'hiver pour pouvoir les ressortir sur vos rosiers au printemps. Et c'est pour ça que des fois, on a l'impression de s'être débarrassé des pucerons. Et hop,
pas
par magie,
du tout. Elles sont élevées par les fourmis. Réalité, elles ont été mises au frigo.
Exactement.
Par les fourmis. Quoi. Enfin,
voilà,
au
pour qu'ils survivent à l'hiver. Donc c'est assez incroyable.
Eh bien, on continue autour de la question jusqu'où nous entraîneront les fourmis, ces super-héroïnes. On comprend qu'elles nous fascinent par leur super-pouvoir. Découvrons maintenant, alors les fourmis, je ne sais pas comment dire, infirmières, pharmaciennes ou médecins. C'est l'éclairage de l'entomologiste Éric Franck. Il est actuellement en post-doc à l'Université de Lausanne. Après avoir étudié de très près les fourmis matabélées en Côte d'Ivoire, il est l'auteur d'un ouvrage sur les fourmis combattre, sauver, soigner. Écoutez son éclairage.
C'est vraiment très systématique et sophistiqué, tout ce comportement qu'on voit chaque jour. Alors, il fait la chasse jusqu'à 5 fois par jour et il y a blessés dans chaque bataille.
Les fourmis font la chasse aux termites 5 fois par jour, 4 fois par jour.
Oui, 3 à 5 fois par jour, oui, normalement. Et c'est déjà très sophistiqué la chasse même, où il y a l'éclaireuse qui trouve les termites et tout la, comment il va alerter les autres pour venir. Et après de la chasse, il va toujours amener les termites pour les manger après au nid, mais aussi les fourmis blessées. Et après, dans les nids, les camarades, il va utiliser sa bouche pour nettoyer la blessure et comme ça éviter une infection de la blessure. Et sans traitement, 90% des fourmis sera mort dans les premières 24 heures.
Est-ce qu'on a une idée du traitement? C'est dans leur, en quelque sorte dans leur salive qu'elles auraient des propriétés antiseptiques, voire antibiotiques?
On pense en général, bien sûr, si on a perdu une patte, on s'imagine, et on marche dans la terre, il y a beaucoup de débris et des sols qui peuvent rentrer. Alors les choses premières qu'elle va faire, c'est simplement nettoyer la blessure. Ça veut dire, avec sa bouche, élever tous les trucs qu'il y a dedans. Et ça, déjà, ça va aider beaucoup à soigner la blessure. Mais en même temps, on pense qu'il y a aussi des substances, peut-être antibiotiques, qui peuvent aider à soigner la blessure. Mais nous sommes en train de faire cette investigation maintenant au laboratoire du professeur Laurent Keller.
Est-ce qu'on en sait un peu plus, justement, sur ces antibiotiques fourmis, Audrey Dufutour?
Alors, c'est vrai que les fourmis, elles maîtrisent un petit peu l'usage des antibiotiques. Tout à l'heure, on parlait des fourmis agricultrices qui élèvent des champignons dans leur colonie. Et ces fourmis-là, par exemple, elles abritent plus de 17 espèces de bactéries sur leur corps qui produisent différents antibiotiques qui leur permettent de garder leur culture de champignons saine et de les protéger contre les parasites et les bactéries. Donc, c'est vrai que ces fourmis-là... Elle maîtrise l'antibiotique. Je ne sais pas si les matabélés, on le sait maintenant, si elles utilisent des antibiotiques ou pas, mais dans l'expérience d'Éric Franks, qui m'a fait beaucoup, moi, rire un petit peu, c'est que ces fourmis qui sont blessées, elles sont transportées par les autres, elles se mettent en position fœtale et elles sont transportées. Et parfois, elles ne le sont pas, parce que finalement, elles ont perdu qu'une patte ou que quatre pattes.
Et qu'elles peuvent y aller.
Et du coup, elles peuvent y aller à pied. Et ces fourmis-là, elles claudiquent un peu, elles marchent très, très lentement pour essayer d'attirer l'attention, elles se mettent en position fœtale. Et quand elles voient que les autres ne réagissent pas, elles accélèrent. Donc elles savent tout à fait marcher. Et j'avais trouvé l'anecdote assez rigolote parce que de voir ces fourmis un petit peu faire de la comédie finalement.
Mais c'est ça pour qu'on les porte, quoi, hein, pour être sur le brancard alors qu'elles peuvent se débrouiller toutes
seules.
Et
il montrait aussi dans son expérience qu'une fourmi qui est extrêmement blessée, par exemple qui aurait perdu 5 pattes, elles ne sont pas ramenées au nid, pas parce que la fourmi est capable de voir qu'elle est trop blessée, qu'elle ne va pas survivre, mais parce que finalement, elles ne sont pas capables de se mettre dans la position fœtale parce qu'elles sont trop agitées. Et du coup, les autres fourmis, médecins entre guillemets, perdent patience et du coup, les abandonnent.
Antoine Vistra, je veux bien votre éclairage, vous qui travaillez sur le comportement, le cerveau de ces fourmis. Alors, je ne vais pas vous demander ce qui se passe dans le cerveau des fourmis, mais tout de même, on se dit, comment se fait-il qu'il y ait des comportements aussi sophistiqués?
Alors, et à propos de sauvetage, il y a eu des études qui ont été faites à l'Université de Paris 13 qui ont montré que si on attache une ouvrière de manière à ce qu'elle puisse pas se libérer, elle est mise à quelques dizaines de centimètres de la sortie de sa colonie à l'extérieur du nid, on va voir que bien vite, il y a d'autres individus qui vont venir la secourir. Ils arrivent à la rescousse et ils cherchent un moyen de la libérer. Alors on pourrait penser au début que ce soit un système réflexe, que la fourmi attachée lâche une phéromone de détresse et les autres réagissent et ça déclenche un réflexe moteur. Mais là, l'expérience montre que c'est...
Ah, on veut vous entendre sur cette expérience-là. Vous êtes là, Antoine Vistrache.
Vous m'entendez,
oui? Oui, on vous entend très bien. Donc vous dites que ça n'est pas un phénomène réflexe.
Exactement, parce que si c'était un phénomène réflexe, on s'attendrait à une réponse stéréotypée, toujours la même. Or là, la fourmi était attachée en étant serrant par un petit nœud autour de son abdomen qui l'attachait à une plaque au sol dans le sable. Donc quelque chose de pas naturel du tout. Et on voyait les fourmis autour creuser et qu'on réussit à défaire le nœud par en dessous. Donc quelque chose qui n'est vraiment rien de réflexe. Donc ça montre une certaine compréhension de la situation.
Ouais.
Alors après, à quel point cette compréhension et qu'est-ce que vraiment la fourmi ressent à l'intérieur d'elle-même? Est-ce que c'est de l'empathie ou est-ce que c'est quand même une impossibilité à résister à cette phéromone de détresse? Ça, c'est dur à dire. On ne peut pas non plus se mettre à leur place.
Bien sûr.
Une chose est sûre, ce n'est pas simplement des réflexes. Il y a certaines compréhensions. Et aussi une mémoire de la situation parce que les fourmis qui essaient de libérer la captive, quand elles essayent quelque chose qui ne marche pas, elles ne le refont plus après. Elles passent à autre chose. Donc c'est bien qu'elles se souviennent de ce qu'elles ont fait avant aussi.
Mais ce sont des stratèges, nos fourmis, autour de la question pourquoi sont-elles des super-héroïnes? On continue de s'interroger, cette fois-ci avec Jeanne Moreau sur RFI Fourmis.
La plus belle sourira, rap à faire et rap à boire. La plus belle sourira en soi. Je lui dirai mon altesse, rap à ciel et rap à noix. Je la prendrai par la tresse à moi. Je lui dirai mon aucune, rap à vie et rap à croix. Ma miel, ma sel et ma lune, c'est toi. Et nous verserons ma vie, rap à songe et rap à soi, dans une cristallerie sans poids. Vitons-la d'une gorgée, rap à doute et rap à foi, quel azur aux mers égées on voit. Adieu patrie au Saint-Loup, rap à glaive et rap à loi, nous sommes nus pour toujours, et quoi? La plus belle sourira, rap à faire et rap à boire, la plus belle sourira en soi. Je lui dirai mon altesse, rap à ciel et rap à noix, je la prendrai par la tresse à moi. Je lui dirai mon aucune, rap à vie et rap à croix, ma miel, ma sel et ma lune, c'est toi. Et nous verserons ma vie, rap à songe et rap à soi, dans une cristallerie sans poids. Vitons-la d'une gorgée, rap à doute et rap à foi, quel azur aux mers égées on voit. Adieu patrie au Saint-Loup, rap à glaive et rap à loi, nous sommes nus pour toujours, et quoi?
Et quoi, la fourmi de Jeanne Moreau sur RFI. C'est pour vous, Audrey Dussutour et Antoine Vistrache, autour de la question des super-pouvoirs des fourmis. Vous nous faites partager l'Odyssée des fourmis, titre de votre ouvrage, coécrit par tous les deux, édité chez Grasset. Une véritable odyssée. Qu'est-ce qui... Parce que c'est énorme, cette odyssée. Tout est surprenant chez les fourmis. Là, je vais m'adresser à chacun d'entre vous. Peut-être avec à Antoine d'abord, Antoine Vistrache, en duplex avec nous. Qu'est-ce qui vous... à la fois fascine le plus, surprend le plus, et qu'est-ce que vous cherchez à comprendre dans le cerveau et dans le comportement des fourmis que vous étudiez, Antoine ?
Alors moi, je suis arrivé à étudier les fourmis simplement parce que c'est un environnement, un monde interne complètement alien. On cherche les extraterrestres à l'extérieur, dans les étoiles, mais au final, les insectes vivent dans un autre monde. C'est un autre espace-temps, ouais. Un espace où toutes les forces physiques sont différentes des nôtres. Vous voyez que une simple goutte d'eau a une tension de surface qui fait qu'elle est très visqueuse. Donc imaginez arriver devant ces grosses bulles d'eau qui tiennent, ouais, avec un corps super résistant du fait aussi de ces surfaces. Et autre chose aussi, c'est que quand on regarde simplement une fourmi, eh ben, ça va être très difficile de se mettre à sa place. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Eh ben, c'est des expériences de recherche qui fait que c'est très excitant parce qu'on part de très loin et au fur et à mesure des expériences, on commence à découvrir ce monde qui nous est complètement aberrant. Donc c'est très excitant, je trouve.
Et sur quoi vous travaillez aujourd'hui? Parce que vous nous dites que vous travaillez vraiment sur le cerveau, donc sur l'intelligence individuelle des fourmis, alors qu'on ne parle que d'intelligence collective, sur leur comportement. Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment, peut-être, dans votre laboratoire, à comprendre dans ce cerveau plastique des fourmis aliens extraterrestres, hein, par rapport à nous, évidemment, bien qu'elles, ce sont elles qui vivent sur Terre, bien plus que nous, peut-être.
Oui, on essaye là en ce moment de comprendre comment elles font pour organiser l'espace extérieur dans leur tête. Nous, on sait très bien, je sais par exemple dans ce studio qui a la porte derrière moi, mais comment je sais ça dans mon cerveau? Et une fourmi va avoir l'équivalent. Elle va savoir se repérer dans l'espace d'une manière admirable qui nous dépasse bien souvent. Elles ont des prouesses navigationnelles absolument exceptionnelles. Donc elles doivent être capables d'organiser toutes ces mémoires visuelles, olfactives, devant d'une manière qui fait que dans leur cerveau, ça fonctionne très bien. Donc on essaye de comprendre à travers leur comportement de navigation comment elles organisent un petit peu toutes ces mémoires.
Et pour ça, quelles expériences? C'est des expériences compliquées ou...
Alors, c'est une approche à deux facettes. Alors, il y a une facette où on fait effectivement des expériences. Alors pour ça, on peut soit aller directement sur le terrain. Donc c'est à peu près 2-3 mois par an, ça c'est super. Où là, on a développé quelque chose qui est comme une réalité virtuelle pour fourmis. La fourmi, en fait, est sur une espèce de petite boule flottante à coussin d'air. Et autour d'elle, il y a une grande arène sphérique qui projette des mondes qui fait que quand la fourmi se déplace sur sa boule à coussin d'air, alors elle reste sur place, mais nous, on enregistre les déplacements de la petite balle et on peut déduire les déplacements que la fourmi veut faire et donc transformer l'image comme si elle se déplaçait dans un monde virtuel au final. Et ça, ça nous permet de manipuler l'environnement qu'elle voit et en même temps d'enregistrer exactement ce que la fourmi veut faire. Donc on peut poser plein de questions. Ça, c'est une facette. Ouais. Puis pour faire rapide, l'autre facette, c'est on fait des modèles en réseau de neurones inspirés de justement ce qu'on sait du cerveau des insectes. On connaît bien la circuiterie, mais on ne comprend pas très bien comment ça marche. Alors pour ça, on a des modèles qu'on met dans des petits agents simulés qui vont eux aussi naviguer dans les mondes virtuels. Et en essayant de faire que l'agent ressemble à ce que fait la fourmi, on va pouvoir poser des questions à la fourmi très spécifiques sur les problèmes qu'on a avec notre agent et petit à petit comprendre de mieux en mieux leur cerveau.
Vive la réalité virtuelle pour rentrer dans le cerveau des fourmis. Je ne sais pas ce qui est le plus hallucinant, ce que font les fourmis ou la manière dont vous arrivez à les étudier. Audrey Dussutour, vous, qu'est-ce qui vous fascine le plus? Est-ce que vous cherchez, même si aujourd'hui, on aura quelques minutes pour en parler, vous travaillez plus sur ces incroyables organismes, aussi fantastiques que les fourmis, peut-être les blobs, mais chez les fourmis?
Ce qui m'intéresse chez les fourmis, c'est ce qui m'intéresse chez les blobs en réalité, ouais. C'est la résolution de problèmes décentralisés. Donc l'idée qu'il n'y ait pas de leader, que ce soit que chez le blob, il n'y a pas de système nerveux, chez les fourmis, il n'y a pas de coordinateur des travaux. C'est un système complètement auto-organisé, et ça me fascine parce que ça nous apprend un autre système de fonctionnement que le nôtre. Et ça nous donne un petit peu d'humilité parce que les fourmis, elles arrivent à faire des choses incroyables sans avoir à imposer un chef qui va diriger tout le monde. Mmh. Et je trouve que ce système un petit peu chaotique et qui marche très bien, où chaque fourmi fait un petit peu réagir à son voisin, n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui lui dit fais ci, fais ça. Je trouve ça assez extraordinaire. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est de voir comment un autre type de fonctionnement, finalement, peut résoudre un problème que nous, on a et qu'on va résoudre de manière complètement différente. Et finalement, les fourmis nous apprennent beaucoup de choses.
Elles nous ont appris, en tout cas, les algorithmes fourmis grâce à vous. Et puis, on en saura beaucoup plus encore. Un petit mot peut-être sur vos blobs, donc ces organismes unicellulaires, enfin, que vous avez remis au goût du jour, qui ont même été emmenés par Thomas Pesquet dans l'espace. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas seulement Thomas Pesquet qui les élève dans l'espace, mais vous invitez chacun à cultiver son blob à la maison, c'est ça ?
Tout à fait. Suite au projet Élève ton blob, qui était coordonné par le CNES et le CNRS, les gens étaient un petit peu jaloux. Ils ont dit, mais c'est dommage, sur Terre, ils ont dit, pourquoi c'est toujours les scolaires qui participent à des super projets ? Nous aussi, on voudrait. Et donc, le CNRS a décidé d'ouvrir un projet de science citoyenne ouvert à tous. Et en particulier, on souhaitait aussi viser les publics empêchés, c'est-à-dire les EHPAD, les prisons, les centres médico-sociaux, les gens qui n'ont pas forcément accès facilement à ce type de projet. Et l'idée de ce projet, c'est à trois objectifs. Le premier, d'introduire la démarche scientifique chez les citoyens. Mmh. Comment se fait la science au quotidien dans un laboratoire de recherche, de la question qu'on se pose à la publication. Ils vont participer à toutes les étapes. Ensuite, les sensibiliser à un défi sociétal majeur qui est le réchauffement climatique. Mmh. Donc le but de cette expérience est de voir comment le blob réagit au changement de température. Et bien sûr, le but final, c'est de recréer un lien entre le citoyen et le chercheur. Parce que des fois, le chercheur, il est dans sa tour d'ivoire. Et je trouve ça extrêmement dommage. Et je pense que c'est de notre responsabilité en tant que chercheur de revenir vers les citoyens et de leur expliquer ce que nous, on fait. Parce que c'est quand même ces gens-là qui font qu'on peut travailler tous les jours. Donc, moi, je trouve que c'est un retour qu'on doit faire vers le citoyen.
Le lien, en tout cas, pour savoir comment adopter un blob, le cultiver à la maison et être en lien avec vous. On mettra le lien sur notre page, bien sûr. Mais en tout cas, avec vous deux, Antoine Vistrache et Audrey Dussutour, il n'y a pas beaucoup de distance, à part que vous en savez beaucoup plus que nous sur les fourmis. Donc je renvoie tous nos auditrices et auditeurs à votre ouvrage L'Odyssée des fourmis, qui est paru chez Grasset. Merci beaucoup Audrey Dussutour d'avoir été en direct avec nous. Merci Antoine Vistrache d'avoir été avec nous en duplex depuis Toulouse. Et à bientôt, vous revenez quand vous voulez. Hein.
À bientôt. Autour
de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, autour de la question des liens entre santé et environnement. Merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, aux fourmis comme aux blobs. Dans quelques instants, il est l'heure de retrouver les informations sur RFI.